Bjarni Stastrup, l'auteur du langage C++, le troisième langage de programmation le plus utilisé au monde, a dit un jour: J'ai toujours rêvé d'un ordinateur qui soit aussi facile à utiliser qu'un téléphone. Mon rêve s'est réalisé. Je ne sais plus comment utiliser mon téléphone. Vous écoutez dans le champ lexical, et cette semaine, le mot c'est téléphone. Bienvenue à Dans le champ lexical, l'émission qui tourne autour du mot. Chaque semaine, on prend un mot, on lance un appel à nos idées, qui en font le tour et nous reviennent avec différents sujets en rapport avec ce mot-là. Cette semaine, le mot c'est téléphone.
Officiellement, c'est en 1876 qu'Alexandre Graham Bell a fait réellement fonctionner son invention pour la première fois. Et quand est venu le temps de dire la toute première phrase au téléphone, celle qui allait faire l'histoire avec un grand H, Bell a décroché le combiné et a lancé ce morceau de sagesse. Monsieur Watson, veuillez venir dans mon bureau, je vous prie. Bon, ok, d'accord, c'est pas aussi bon que I had a dream ou un petit pas pour l'homme, un grand pas pour machine. Mais bon, c'est ça qu'il a dit, c'est ça qu'il a dit. Mais parallèlement à Bell, plusieurs inventeurs travaillaient à l'époque à fabriquer le téléphone. Alors si Graham Bell est reconnu comme l'inventeur de l'objet qu'on a aujourd'hui, la paternité de l'invention reste toutefois sujet à controverse. Elisha Gray, par exemple, a déposé un brevet pour une invention équivalente seulement 2 heures plus tôt, le même jour que Graham Bell. Oui, oui, 2 heures avant que Graham Bell rentre dans le bureau des brevets, elle a déposé le sien. Mais le brevet de Bell aurait été examiné immédiatement à la demande de son avocat, tandis que celui de Gray a été mis sur une tablette jusqu'au lendemain. Le pauvre Elisha a intenté plusieurs procès contre Bell, mais ils se sont tous terminés par un avis en sa défaveur et la paternité officielle de l'invention a été attribuée à Alexandre Graham Bell. Mais il y a également le cas d'Anthony Mushi. En 1874, 2 ans avant que Graham Bell fasse fonctionner son téléphone pour la première fois, Antonio Mushi serait rentré en contact avec la compagnie Western Union dans l'espoir de voir son prototype, un genre de téléphone, développé et commercialisé. Convaincu de s'être fait voler son invention, Mushi a intenté un procès à Bell lui aussi. Le procès a duré 13 ans et c'est la mort de Mushi qui a mis fin aux procédures sans que la paternité de l'invention du téléphone lui soit reconnue. On a tenté de rejoindre Alexandre Graham Bell pour avoir sa version de l'histoire, mais il n'a pas retourné nos appels.
In your neck. Allô?
Bon, j'ai appris que tu avais une super anecdote de téléphone.
Oui, en effet.
Donc, mise en situation, c'était il y a une dizaine d'années, ton téléphone sonne, il est 3h, 4h du matin. J'imagine que c'est un de tes amis qui t'appelle.
Non, du tout. C'était un étranger, un gars très, 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 très saoul qui m'appelait pour... qui appelait un de ses amis, je crois, sûrement sa blonde, qui il arrêtait pas de dire qu'il s'excusait, qu'il était désolé de qu'est-ce qu'il avait fait. Et moi, j'avais voulu lui dire que c'était un faux numéro, que j'étais pas la bonne personne, mais il m'écoutait pas vraiment. En fait, je sais même pas s'il entendait ma voix. Tout ce qu'il disait, c'est « je suis désolée, j'ai fait le con, blablabla ». Et j'ai fait comme « non, c'est pas moi, mais ça marchait pas ».
Comment tu t'es sortie de ça? L'as-tu juste raccroché?
Ben là, à un moment donné, je me suis dit que il avait l'air sincère. Il avait pas l'air d'un sou méchant. Il avait l'air plus d'un sou, tu sais, triste. Donc, je me suis dit, ben, je vais le laisser un peu parler. Puis, à un moment donné, j'ai fait, bon, comment je vais m'en sortir? Je me suis dit, je suis pas pour lui dire, OK, c'est beau, je te pardonne. Je me suis dit, d'un coup, que ce soit vraiment grave, qu'est-ce qu'il fait? Parce que je comprenais pas qu'est-ce qu'il avait fait. Donc, je lui ai dit, elle va te coucher. Puis, on va en parler demain. Puis, il m'a dit, OK, bonne nuit. Puis, il a raccroché. J'ai trouvé ça très drôle.
Donc, pendant 10 minutes, t'as été la blonde trompée de quelqu'un d'autre.
Exactement. Faisais pitié. Il avait l'air d'un gars sincère. Honnêtement, j'espère que sa blonde lui a pardonné parce qu'il faisait vraiment, peu importe la situation, il avait pas l'air d'un gars méchant. Il avait l'air plutôt d'un gars triste.
Donc, les gens à la maison, si vous avez un appel de regret à faire, Vicky est la bonne personne à appeler.
Exact.
Elle aura les bons mots pour vous.
Oui, exact. Oui, j'ai été la bonne personne. J'ai écouté. J'étais bonne.
Ces temps-ci, on parle beaucoup de la présence de l'anglais à Montréal. On s'inquiète même de la présence d'unilingues anglophones dans des postes décisionnels importants de grandes entreprises installées à Montréal. Mais ça, c'est un problème qui ne date pas d'hier. Prenons par exemple les débuts du téléphone à Montréal entre 1879 et 1930. Les entreprises comme Bell étaient alors dirigées pratiquement exclusivement, sinon exclusivement, par des anglophones. Mais les téléphonistes aussi parlaient l'anglais, et à l'époque, on n'avait pas le choix de passer par elle pour parler à qui que ce soit au téléphone. Le résultat, c'est que la demande pour le téléphone était beaucoup plus grande dans les quartiers anglophones de la ville que dans les quartiers francophones. Les infrastructures du téléphone ont donc été installées plus rapidement dans les parties anglophones de la ville. Et à la longue, les tarifs des anglophones de Montréal se sont aussi mis à être plus avantageux que ceux des francophones. Il y avait donc une réelle fraction entre les anglophones et les francophones dans le domaine de la téléphonie à Montréal, et ça a duré quand même quelques années. Voilà pour la partie information de ce segment sur la langue et le téléphone. Passons maintenant à la partie anecdote. Un collègue de travail à moi a un numéro de téléphone qui est à un chiffre près d'être le même que la billetterie de la Place des Arts. Il reçoit donc régulièrement des appels qui lui étaient pas du tout destinés pour avoir des billets, pour avoir des informations, toutes sortes de choses comme ça. Il y a 3 ans, a été déposé sur son répondeur, telle une fleur qui tombe dans un étang avec des nénuphars, a été déposé sur son répondeur le message d'une sympathique dame anglophone. Message qu'il a conservé précieusement sur sa boîte vocale depuis et qu'il écoute régulièrement avec affection. Le message va comme suit.
I don't understand French. If you want to talk to me, speak in English.
Fin du message.
Eh bien, si vous nous écoutez, Madame l'Anglaise, et que vous avez appris le français depuis, nous vous saluons.
Cette semaine, Sonny Duval fait dring. Quand ça fait dring et que je ne veux plus que ça sonne, je décroche mon téléphone. Quand au bout du fil tu parles tout le temps, je raccroche le téléphone. Je cours me laver quand je dois quitter. Alors j'utilise le cadeau d'Élise. Je cours me laver et j'utilise le cadeau d'Élise. ma douche. Téléphone, téléphone, téléphone.
Pour mon Vox Pop de cette semaine, j'ai jasé téléphone face à face avec tout plein de monde et j'ai fait un montage des meilleurs extraits.
Ah mon Dieu! Je ne sais pas, écoutez, moi j'ai été des années avec un téléphone à roulette. J'étais peut-être une des dernières à Montréal à éviter la nouvelle technologie.
Moi, je suis partie avec le fil. Tu sais, celui qui se poignait en petit boudin. Après, on est tombé avec le super gros pesant.
Pour les téléphones maison, c'est ça qu'on dit. On voit un petit écran à côté, puis on va se voir. Ça, c'est quand j'étais jeune.
Je le voyais vraiment sur l'ordinateur, puis qu'on parlait à l'écran. Tout simplement, puis qu'on était pour voir le monde à travers... qu'on était pour parler aux Martiens. C'était carrément ça, le téléphone, pour moi.
D'un coup, j'ai des prisettes sur la tête, là. Puis on se voit, moi, je me disais, oh, je pense pas que je vais en avoir un téléphone comme ça. Je vais me mettre à côté quand je vais répondre.
On se patentait une affaire, il n'y avait pas de film, on était pour reparler, puis ils nous voyaient faire, puis on pensait de se faire voler à un moment donné parce que les gens étaient pour regarder.
Bien, je voyais déjà que les gens avaient commencé à avoir des cellulaires, mais ils n'étaient pas aussi petits qu'aujourd'hui, ou aussi technologiques avec la musique, etc., etc.
Moi, je pense qu'on est à une apogée, sérieux, là, ça va être juste de mettre des petites touches de finalité, là, mais on ne réinventera pas plus la roue.
Mais qu'on peut se faire trop de... Déjà, on peut faire beaucoup de choses sur le téléphone, mais si on peut en faire encore plus, ça va en venir...
Écoute, mon calendrier est là-dessus. Il est syncé avec mon ordinateur aussi. J'ai ma liste d'épicerie. Quand je pense à quelque chose, j'écris dans mon cellulaire, ce qui n'était pas le cas avant. T'sais. Partout, quand tu as des flashs ou n'importe quoi, ben, tu peux le rentrer tout de suite. Hein. C'est beaucoup plus pratique.
Ça non, arrête. Moi, je veux que ça arrête. Tout simplement. C'est correct, là. T'sais, on a notre iPhone, iPad, IP, là. Mais là, on continue là, vers autre chose qui s'appelle le côté humain.
Parler au téléphone, entendons-nous, là, dans la chaleur de son foyer ou, tu sais, quand prendre le temps de se faire un thé puis appeler quelqu'un qu'on aime. Mais sinon...
Ouais, parce qu'il y en a qui ne savent pas qu'un téléphone... Le téléphone aussi, c'est le volume. Il y en a qui ne montent pas le volume, fait qu'ils sont obligés de parler plus fort. Il y a beaucoup de gens qui parlent beaucoup plus fort au téléphone aussi.
Je dirais dans l'autobus, des fois, ils parlent vraiment trop puis c'est juste là à côté de toi puis t'entends toute leur vie puis...
On sait que dans les autobus, je veux dire, le monde, le téléphone parle fort. On comprend toutes les conversations. Bon, non. Pas d'écouter, non, ça me dérange pas. Je dis tout simplement qu'il pourrait parler un petit peu moins fort, mais...
Ouais, j'ai un BlackBerry ici. Là.
Oh, il est cassé!
Ouais, la vitre s'est brisée, mais il fonctionne toujours. Ah, on peut toujours en racheter un autre, ou des fois il y a des garanties. Mais c'est sûr que c'est un petit stress, il faut faire attention pour le garder en ordre. Ben, le pas se faire voler ou le perdre.
Ben, c'est sûr que si tu le perds, tu perds tout. Sauf que moi, étant donné que c'est 5 ans avec mon ordinateur, j'ai quand même la possibilité de retrouver tous mes trucs sur mon ordinateur.
Déjà qu'on a des ondes, présentement, je te parle là, avec ton téléphone. Là. Puis je suis à peu près sûre que tu te rends dans mon cerveau, puis qu'à un moment donné, je vais devenir mutant. Là.
Certaines personnes, toujours à la fine pointe de la technologie, désirent avoir constamment le plus neuf des nouveaux téléphones intelligents. Elles payent des centaines de dollars de plus que le prix à la sortie du dit produit dans leur pays pour le commander à l'extérieur et l'avoir 2 semaines plus tôt que tout le monde, ou campent pendant plusieurs nuits devant un magasin pour être sûres d'être les premières personnes à avoir le plus dernier des nouveaux récents cellulaires intelligents, téléphones, appareils photo, énergie cardio, masque à gaz. Et certaines autres personnes, au désir un peu plus modeste de nouveautés, gardent longtemps leur cellulaire, quitte à rester des lunes avec ce vulgaire objet vétuste. Ceux-là pour qui le téléphone a de moins en moins d'autonomie de batterie à la longue, ou ceux qui oublient simplement de charger leur cellulaire, seront contents d'apprendre que des ingénieurs ont trouvé pour vous, en mai dernier, la solution au problème. Ils ont réussi, lors d'études et d'expérimentations, à convertir l'énergie sonore produite lors de conversations en électricité exploitable. En fait, les chercheurs ont exploité les lamelles d'oxyde de zinc miniatures accompagnées d'électrodes. Le bruit fait donc vibrer ces lamelles, ce qui génère de l'électricité. Mais en attendant que ça soit sur le marché, mes chers amis irresponsables ou archaïques, il vous faudra attendre quelques temps, parce que, pour le moment, la seule façon de faire fonctionner le système, c'est de gueuler très fort dans l'appareil. Alors, à moins d'être souvent fâché, prenez votre mal en patience.
Bonjour, vous avez bien rejoint la boîte vocale de Christian. S'il vous plaît, laissez-moi un message après le bip.
À la tonalité, veuillez enregistrer votre message. Après avoir terminé l'enregistrement, vous pouvez raccrocher ou appuyer sur le dièse pour obtenir plus d'options.
Ouais, salut Christiane, c'est Pierre. Ben c'est ça là, je t'appelais juste pour te parler de mes chansons en lien avec le téléphone, mais bon, t'es pas là, hein. Fait que ben, je te laissais ça sur ta boîte vocale. Là. Te souviens-tu de I Just Called to Say I Love You de Stevie Wonder? Ben oui là, tu sais là, I Just Called to Say I Love You. Je suis à peu près sûr que tu savais même pas que cette chanson-là avait gagné le Golden Globe et l'Oscar de la meilleure chanson originale en 84. Parce qu'elle avait été composée pour le film The Woman in Red, là. Non, mais, hein. Puis, tu sais, avoue qu'on rêve tous de recevoir un coup de fil juste pour se faire dire je t'aime, tu trouves pas? I just got to say I love you. Il y a Françoise Hardy là, qui a chanté la chanson « Message personnel » de Michel Berger, je pense que c'était en 1973. C'est là le genre de chanson avec un long bout de parler, comme c'était bien populaire à l'époque, là, comme Joe Dassin faisait. Là. Elle a composé le texte de cette partie-là où elle raconte qu'elle entend une voix, des mots au bout du fil, mais bon, c'est comme pas trop clair. Là, elle dit qu'elle veut, qu'elle peut pas. Bon, qu'est-ce que tu veux, c'est du Françoise Hardy. Hein?
Au bout du téléphone, il y a votre voix. Et il y a les mots que je ne dirai pas. Tous ces mots qui font peur quand ils ne font pas rire. Qui sont dans trop de films, de chansons et de livres.
Ah, bon, tu connais ça, Téléphonez-moi de Dalida. C'est pas super bon, là, mais bon, c'est quand même assez triste au bout du compte comme chanson. Parce que Dalida a fini par dire que son téléphone sonne pas malgré ce que tout le monde peut bien imaginer. Puis qu'elle a besoin d'une voix. Que sans son public, toute sa vie ne tient qu'à un fil, puis genre qu'elle se sent toute seule sur son île. Fait que c'est comme une grosse chanson sur la solitude, genre.
Vous me voyez comme une star, mais je ne suis qu'une femme. Vous savez, quelquefois, la gloire a fait des bleus à mon âme. J'ai envie d'écouter d'autres mots que ce qu'on écrit dans les journaux. Faites mon numéro et je t'envoie allô. Téléphonez-moi, je n'attends que ça. J'ai besoin d'une voix. Téléphonez-moi dans mon agenda. J'ai du Vous me croyez heureuse et tranquille, mais je suis seule sur mon île. Sans vous, toute ma vie ne tient qu'à un fil.
J'ai un super bon flash. Il faut à tout prix que tu écoutes la chanson « Raccrocher, c'est une horreur » de Jane Birkin puis de Serge Gainsbourg. Elle est sortie en 78, mais elle est malheureusement pas super connue. Le téléphone sonne chez Jane. Elle répond « Hello, hello, hello ». Mais elle demande après ça si c'est Johnny ou Lulu. Mais en fait, c'est un maniaque sexuel là, qui est joué par Gainsbourg lui-même qui lui demande sa couche à poil ou en pyjama puis qui lui suggère de faire dodo avec elle. Fait que, tu sais, James comprend, elle répond « Raccrocher, c'est une horreur ». En tout cas, tu me diras ce que t'en penses, là. Tu connais mon numéro, mais bon, appelle-moi pas ce soir, là. Je suis pas chez moi, j'ai mon cours de scrapbooking, là, comme tous les jeudis. Fait que, salut, là!
boulette.
C'est qui?
T'inquiète, tu me connais pas, mais moi je te connais. Dis donc, on devrait faire dodo ensemble, hein, qu'est-ce qu'on dit?
Ma cochée, c'est une horreur. La suite dans les idées, hein.
Les poupées. Petite chérie, quand tu couches à poil ou en pyjama, réponds.
Raccrocher, c'est une horreur.
Mais t'occupe. Tu sais ce que j'ai envie de te faire, devine. Des bisous tout partout.
Raccrocher, c'est une horreur. Hello. Hello, hello. Et dis donc, le maniaque sexuel. Tu pourrais pas m'oublier un peu?
Petite, devine un peu ce que je suis en train de faire en ce moment.
Raccrocher, c'est une horreur.
Assistance annuaire sans frais. Toll-free directory assistance. For English, say English. Quel est le nom demandé?
Dans le champ lexical.
Pardon, pourriez-vous répéter le nom?
Dans le champ lexical.
Un numéro a été trouvé pour Gary Chartrand. Désirez-vous ce numéro?
Non.
Merci. Voici le numéro. Appelez sans frais le 1-888-4.
Vous écoutez dans le champ lexical et cette semaine, le mot c'est téléphone. En Amérique du Nord, dans les œuvres de fiction, les numéros de téléphone commencent très, très souvent par 555. Mais en vérité, le 555, c'est pas l'apanage des fictions cinématographiques, télévisuelles ou des commerciaux, mais c'est un vrai préfixe. Aux États-Unis et au Canada, c'est aussi ce que vous venez d'entendre dans l'extrait, c'est-à-dire qui accompagne un numéro d'assistance. C'était le 1-800-555-1212. Il existe aussi d'autres numéros d'assistance avec le 555 qui commencent par le 1-800, comme le 1-800-555-1111, qui vous connecte à un opérateur de Bell Canada. Côté œuvre de fiction, le 555 est arrivé dans les années 1960, quand c'est les compagnies de téléphone qui ont commencé à encourager les réalisateurs à l'utiliser pour éviter des confusions. Un des premiers films à l'utiliser, c'est Panic in Year Zero, en 1962. Depuis, plusieurs autres œuvres utilisent le 555 comme début de numéro. D'ailleurs, si vous voulez en savoir plus sur ça ou simplement consulter une compilation exagérément exhaustive des numéros qui commencent par 555, vous pouvez aller à earthlink.net qui recense des centaines et des centaines et des centaines de numéros qui commencent par le fameux 555 et qui sont tous classés par ordre croissant sous différentes catégories avec nom de personnage à qui le numéro appartient, film et année du film. Or, tout le monde n'a pas toujours eu la même rigueur pour l'utilisation du 555. comme Tom Shadyac avec le film Bruce Almighty, dans lequel Jim Carrey rencontre Dieu. Le personnage principal reçoit un page à un moment donné de Dieu. Et c'est là qu'on voit que le numéro de Dieu, c'est le 776-2323. Évidemment, il y a plein de monde aux États-Unis qui se sont mis à appeler à tous les endroits qui avaient ce numéro-là en demandant de parler à Dieu. Comme de l'ironie, deux de ces numéros appartenaient à des églises, dont une de laquelle le prêtre s'appelait également Bruce. En tout, cette entreprise se faisait littéralement bombarder de coups de téléphone pour Dieu. Heureusement, Universal a fini par changer le numéro pour la version DVD et télévisuelle pour 555-0123. Il faut bien sûr penser que le 555 est surtout réservé aux œuvres de fiction, mais qu'en Amérique du Nord, car ailleurs, c'est pas toujours le cas. C'est ce qu'a découvert Gary Larson quand il s'est fait poursuivre pour une affiche qu'il avait faite aux États-Unis et qui a été imprimée également en Australie. Le graffiti qu'il y avait dessus invitait les gens à faire un mauvais coup au téléphone en appelant au 555 quelque chose, quelque chose, quelque chose, numéro qui appartenait bien sûr à plusieurs personnes en Australie, mais qui sur l'affiche appartenait à Satan.
Veuillez composer votre mot de passe. Vous avez 2 messages non écoutés, 1 message sauvegardé. Pour premier message non écouté.
Allô, Pierre? C'est Christiane. Je t'appelle à propos des chansons qui parlent de téléphone. En tout cas, c'est pas le choix qui manque. Les années 60-70 sont particulièrement riches. Il y a « Téléphone moi » de Nicole Croisé. Grosso modo, c'est l'histoire d'une femme qui s'apprête à quitter l'homme avec qui elle vit pour partir avec un autre. Mais là, elle commence à douter, à manquer de courage. Elle voudrait bien que l'autre l'appelle pour l'encourager puis qu'il lui dise qu'il l'aime, là, question qu'elle soit sûre de son coup. Dans la catégorie « Il est parti et il regrette », il y a Claude François avec le classique « Le téléphone pleure ». Bon, le titre au départ est trompeur, c'est pas le téléphone qui pleure, c'est plutôt Clo-Clo qui chante de sa voix pleurnicharde. En fait, c'est l'histoire d'un gars qui appelle chez son ex et elle veut pas lui parler. Alors, il parle avec sa fille qui, elle, ne sait pas que lui est son père. Tu me suis? Bref, il lui crie qu'il l'aime, mais les mots se perdent dans l'écouteur et c'est la dernière fois qu'il appelle, car demain, il sera au fond d'un drain. Oui, oui, il dit ça à sa fille de 5 ans.
Chose à ma maman, elle me fait toujours des grands signes et elle me dit toujours tout bas, mais pour que je sois là.
Raconte-moi comment est ta maison, apprends-tu bien chaque soir toutes tes leçons?
Oui, mais quand maman travaille, c'est la voisine qui m'emmène à l'école. Il n'y a qu'une signature sur mon carnet, les autres sont celles de leur papa, pas moi.
Oh, dis-lui que j'ai mal. Si mal depuis 6 ans, et c'est ton âge, mon enfant.
Ah non, moi j'ai 5 ans. Mais dis, tu la connaissais, ma maman, avant?
Il y a aussi le téléphone de Nino Ferrer. Hey, savais-tu que son vrai nom, c'est Augustino Ferrari? Bref, cette chanson-là, c'est des couplets où on décrit des gens avec une caractéristique qui rime, comme Bernadette et les chouettes, et Édouard fume le cigare. Puis un certain Gaston qui s'occupe du téléphone, puis il n'y a personne qui y répond. Puis c'est pas mal ça.
Gaston, il y a le téléphone qui sonne et il n'y a jamais personne qui y répond.
J'en ai aussi trouvé des plus récentes. Il y a Appel interurbain de Call Me Poupée. C'est l'histoire d'une fille qui appelle chez un gars pour l'inviter, mais il se trouve toujours des excuses, c'est trop loin, blablabla. Bla, bla. Puis à la fin, le dernier coup qu'elle appelle, c'est une fille qui répond, puis là, elle se dit qu'elle aurait dû s'en douter.
Hello? Est-ce que tu viens?
Non, pas ce soir, c'est impossible.
Demain,
non, c'est possible.
Fait que, ben, comme dirait Martin Léon, c'est ça qui est ça. Salut!
Fin du message. Pour effacer ce message, appuyez sur le 7.
Moi, je voudrais pas me mêler de ce qui me regarde pas. Comment je te dirais bien ça? Et puis, il y a un temps où, comme tu sais, ben, il faut que les choses se disent. Fait que, écoute bien, là. Même si t'as eu ça, c'est ça qui est ça. Vas-tu? À un moment donné dans la vie, là, un gars fait qu'est-ce qu'il y a à faire. Puis je voudrais juste pas que tu penses des affaires qui n'ont rien à voir. Prends ça comme tu voudras. Même si t'as ça, c'est ça qui est ça. M'as-tu? On fait pas toujours tout ce qu'on veut dans la vie, là. OK? Regarde-moi, là. Je devrais peut-être pas te dire ça, mais si tu veux que je te dise, moi je suis comme ça. Même si t'as eu ça, c'est ça qui est ça. Hein, tu sais? Ça. OK. En même temps, moi dire, comme on dit des fois, je voudrais pas te dire des affaires que tu sais déjà, tu sais. Mais laisse-moi dire une chose, par exemple. C'est que même si t'as eu ça, ben c'est ça qui est ça. Hein, tu sais? Bon, excuse-moi, là, faut que je te laisse, là, j'ai une autre ligne.
L'attrape-cœur ou Catcher in the Rye de l'Américain J.D. Salinger est tristement célèbre parce que Mark David Chapman avait ce bouquet sur lui quand il a assassiné John Lennon le 8 décembre 1980. Mais au-delà de ça, le roman, qui est paru en 1951, est surtout connu pour son personnage principal, l'adolescent Holden Caulfield, qui est l'un des plus mémorables de la littérature américaine moderne. Si je vous raconte l'histoire, Holden est renvoyé de son collège peu de temps avant Noël, et il retourne à New York. Mais plutôt que de se rendre directement chez ses parents, qui se rendraient compte tout de suite qu'il a été renvoyé, il décide de errer quelques jours dans la ville tout seul. Holden, c'est quelqu'un qui est angoissé, qui analyse beaucoup le monde qui l'entoure. Il est déprimé aussi parce que, bon, à cause des événements, mais aussi à propos du futur. Il est un peu « no future ». Il est également désabusé. Il sait que l'âge adulte s'en vient et il a vraiment pas le goût, en fait, d'entrer dans le moule de l'âge adulte. Et donc, il débarque du train et il songe à appeler son frère, sa sœur ou même des amis, mais il ne le fait pas. La première chose que j'ai faite en débarquant à Penn Station, ça a été d'entrer dans une cabine téléphonique. J'avais envie de donner un coup de bigot à quelqu'un. J'ai laissé mes bagages dehors, en m'arrangeant pour pouvoir les surveiller. Mais à peine j'étais à l'intérieur, je me suis demandé qui je pourrais bien appeler. Mon frère DB était à Hollywood. Ma petite sœur Phoebe va au lit à 9h, alors je ne pouvais pas l'appeler. Ça lui aurait rien fait que je la réveille. Mais c'est pas elle qui aurait répondu. Les parents auraient décroché, donc pas question. Ensuite, j'ai voulu passer un coup de fil à la mère de Jane Gallagher pour savoir quand Jane était en vacances. Mais non, ça me disait rien. D'ailleurs, il était vachement tard. Autrement, il y avait bien cette fille, Sally Hayes. On sortait souvent ensemble. Et elle, je savais qu'elle était déjà en vacances. Elle m'avait écrit une longue lettre à la con, m'invitant à venir la veille de Noël l'aider à garnir le sapin et tout. Mais j'avais peur que ce soit sa mère qui réponde. Sa mère connaissait ma mère, et je pouvais me la représenter tirant illico ses conclusions et regalopant jusqu'au téléphone au risque de se casser une jambe pour annoncer à ma mère que j'étais à New York. Et puis j'avais pas follement envie de parler à la vieille Hayes. Une fois, elle avait dit à Sally que j'étais un excité. Elle disait que j'étais un excité sans but dans la vie. Puis, j'ai eu l'idée d'appeler Carl Luce, qui avait été à Wooten en même temps que moi. Mais je ne l'aimais pas des masses. Alors, pour finir, j'ai appelé personne. Au bout de 20 minutes au moins, je suis ressortie de la cabine. J'ai repris mes valises et j'ai marché vers ce tunnel où sont les taxis et j'en ai pris un. Avec l'argent qu'il a reçu de sa grand-mère, qui est un peu folle, qui en envoie 4 fois par année en pensant à chaque fois que c'est sa fête, il va essayer de se divertir dans la ville, il dort à l'hôtel, il va dans les bars, mais il est constamment déçu par les rencontres qu'il fait, les conversations qui tombent à plat, les gens et particulièrement les filles qui le rejettent. En fait, comme je vous disais tantôt, il essaie de jouer à l'adulte, mais on sent quand même qu'il y a un manque de maturité chez lui et qu'il y a vraiment un refus de devenir une grande personne. Il va finalement appeler quelques gens dans son entourage, comme Jane Gallagher, de qui il était pris, mais ça ne répond jamais. En désespoir de cause, il appelle à un moment donné un ami qui vient prendre un verre avec lui, mais finalement, cet ami-là le plante là en le traitant de bébé. Pour le long extrait, je vous lis la conversation téléphonique entre lui et Faith Cavendish, une escorte que lui a recommandée un ami. D'abord, j'ai pensé qu'elle n'était pas chez elle. Pas de réponse. Finalement, quelqu'un a décroché. J'ai fait « Allô? » d'une voix grave, pour qu'elle puisse pas deviner mon âge ou quoi. D'ailleurs, j'ai la voix plutôt grave de nature. Une voix de femme a dit « Allô? » d'un ton pas trop aimable. Moi, j'ai dit « Je parle bien à Miss Faith Cavendish? » Elle a demandé. Qui c'est? Bordel, qui c'est qui m'appelle à une heure pareille? Ça m'a foutu les foies. J'ai pris un ton tout ce qu'il y a d'adulte. Bon, je sais qu'il est très tard. Je vous prie de m'excuser, mais j'avais hâte de vous joindre. J'ai dit ça d'un ton vachement charmeur. Vachement. Elle a encore demandé. Qui c'est? Écoutez, vous me connaissez pas, mais je suis un ami d'Eddie Birdsell. Il m'a conseillé, si un jour je venais en ville, de vous inviter à prendre un verre. Qui ça? Vous êtes un ami de qui? Ouah, une vraie tigresse. Elle en était presque à m'engueuler. J'ai dit, Edmund Birdsell. Eddie Birdsell. Je me souvenais plus si son prénom était Edmund ou Edward. Je l'avais rencontré une fois seulement, à cette foutue surprise partie. Je connais personne qui s'appelle comme ça, mon petit père. Et allez pas vous figurer que ça m'amuse qu'on me réveille en plein milieu. J'ai insisté. Eddie Birdsell? De Princeton? Je me rendais compte qu'elle se creusait la tête. Birdsell. De Princeton, hein? Princeton College? C'est ça. Et vous, vous êtes aussi de Princeton? Disons, plus ou moins. Ah. Et comment va Eddie? Mais bordel, c'est tout de même un peu fort d'appeler quelqu'un à cette heure-là. Il va bien. Il m'a demandé de vous faire ses amitiés. Ben, merci. Faites-lui les miennes. Puis elle a dit, il est extra. Qu'est-ce qu'il fabrique à présent? Elle devenait tout à coup drôlement amicale. Oh, toujours pareil. Ce qu'il fabriquait, qu'est-ce que j'en savais, moi? Ce type, je le connaissais à peine. J'ignorais même s'il était encore à Princeton. J'ai dit, écoutez, ça vous conviendrait qu'on se retrouve pour prendre un verre quelque part? Dites donc, vous savez l'heure qu'il est? C'est quoi votre nom sans indiscrétion? Subitement, voilà qu'elle prenait l'accent anglais. À vous entendre, vous devez être plutôt jeune. J'ai ri. Merci pour le compliment. J'étais tout ce qu'il y a de plus aimable. Je m'appelle Holden Caulfield. J'aurais dû lui donner un faux nom, mais j'y ai pas pensé. Ben, écoutez, monsieur Caulfield, j'ai pas l'habitude d'accepter des rendez-vous en plein milieu de la nuit. « Je travaille, moi. » J'ai dit, « Demain, c'est dimanche. »« Ben, quand même. Faut que je dorme pour être fraîche demain. Vous savez ce que c'est. » Je pensais qu'on pourrait juste prendre un verre ensemble. Il n'est pas tellement tard. Elle a dit, « Ben, c'est très gentil de votre part. D'où est-ce que vous m'appelez? Où êtes-vous en ce moment? » Moi, je suis dans une cabine téléphonique. Elle a dit « Ah ». Et puis, il y a eu un long silence. « Ben, j'aimerais beaucoup vous rencontrer un jour ou l'autre, Mr. Caffle. Vous avez l'air très gentil. Vous avez l'air d'un très gentil garçon. Mais il est si tard. Je pourrais venir jusque chez vous. En temps ordinaire, je dirais « Super, je serais ravie que vous passiez prendre un verre. Mais je loge avec une copine et en ce moment, elle est malade. Elle ferme pas l'œil de la nuit. Et voilà qu'à la minute, d'un coup, le sommeil l'a prise. Alors vous comprenez... Ah, quel dommage. » Vous êtes descendu où? On pourrait peut-être se voir demain? J'ai dit. Demain, je pourrais pas. Ce soir seulement, c'était possible. J'ai été con. J'aurais pas dû dire ça. Ah bon? Je regrette beaucoup. Je dirai bonjour à Eddie de votre part. C'est ça. Merci. J'espère que vous serez content de votre séjour à New York. C'est super, New York. Je sais. Merci. Bonne nuit. J'ai raccroché. Ouah! J'avais tout fichu en l'air.
Ça va bien?
Ça va, toi?
Oui, j'ai une surprise pour toi.
Oui?
Je suis en train d'enregistrer l'appel.
Oui, OK.
Parce que à mon émission, on parle de téléphone.
Ah oui? Ah bon?
Et il y a Noël qui s'en vient.
C'est Noël, j'ai dans ma tête.
Et moi, si on me dit Noël puis téléphone, je pense tout le temps à une affaire en particulier. Parce que j'ai un souvenir que je raconte à chaque fois qu'on parle de Noël ou du Père Noël. Et il y a toi dedans.
Ah
et
oui?
Et il y a un téléphone.
Ah oui?
Et j'aimerais ça que tu le racontes avec moi.
OK.
OK. Fait que chaque année, quand j'étais petit, au début décembre, tu partais chercher une pinte de lait. Et là, comme par hasard, le téléphone sonnait. Ma mère répondait. Et c'était pour moi puis ma sœur Julie.
Mm-hmm.
Et là, Julie et moi, on prenait le combiné. Mais sais-tu qui nous appelait?
Non.
Essaye quelque chose.
Oh! Allô les petits! Comment allez-vous? Avez-vous été gentils cette année?
Oui, il y avait le...
Il y a toutes les années, c'était pareil.
Fait que le Père Noël nous appelait.
Oui.
Puis, à quoi ça ressemble une conversation du Père Noël avec deux enfants probablement bien, bien énervés?
Oh, on pose des questions, puis là, ça dit... Ah oui, j'étais gentil. C'est quoi tu voulais avoir, là, pour Noël, là? Je sais pas, ça s'arrêtait de même, là. On disait, ben... Soyez gentils encore, puis le Père Noël, quand il va passer, il va regarder comment vous avez été gentil, puis il va vous apporter probablement les cadeaux que vous tentez d'avoir ou que vous pensez.
Puis est-ce qu'on arrivait à dire au moins une ou deux idées de cadeaux, ou on était complètement incompréhensible parce qu'on était trop énervé?
Des fois, on avait, mais la plupart du temps, il n'y avait pas de réponse. Je les en mentionnais quelques-uns à l'occasion, donc... Maman, c'est le Père Noël!
Ça devait être le fun à faire?
Ah oui, c'était toujours émouvant, là, parce que juste de voir l'émotion que ça créait, là, puis quand je sais que je revenais à la maison, là, on me disait, Baba, le Père Noël, il nous a appelé, là, tout le monde parlait en même temps, là, on ne comprenait pas vraiment, là, puis on disait, ah oui, puis qu'est-ce qu'il vous a dit? Il nous a demandé si on était gentil, puis que j'avais dit, on était assez énervé, on ne sait pas.
Je ne sais pas si je te l'ai déjà dit, mais c'est pas mal mon meilleur souvenir de Noël.
Ah oui, à un moment donné, vous avez su que c'était moi, là, peut-être.
Je sais que la dernière fois, je trouvais ça, je le savais, mais bon, il y a des cadeaux qui s'en viennent, fait que tu fais comme si de rien n'était. Thank you.
Ils vont y faire sa fête.
Et alors, comment je recule?
Quoi, quoi?
Comment veux-tu que je t'encule?
Ben quoi, qu'est-ce que c'est?
C'est pas Thérèse?
Non.
C'est une nouvelle?
Oui.
Comment tu t'appelles?
Moi, c'est Josette.
Je t'encule, Josette. Je te mets, je te retourne, je te rebaise et tu me suces. Tu m'entends, Josette? Je vais t'enfiler.
Mais avec quoi t'es donné? Fous-moi la paix pour un merde. Encule-toi tout seul, espèce de malpoliche. Oh, bravo la police.
Mon cul, je l'emmerde, la police.
Donnez-moi ça à vous. Poussez-vous. Oh. Allô? Excusez-nous, monsieur, vraiment, vous n'aviez pas affaire à une répondante, il y a eu un petit malentendu.
Un malentendu du cul, vieille morue. Je te pète la roulette, pot de couille.
Très poétique, très très poétique, je ne connaissais pas toutes ces expressions.
Bah oui, bah
c'est... Eh bien, allez-y, monsieur, insultez-moi à loisir, nous sommes là pour ça.
Oui,
Mais que se passe-t-il? Hein? Vous ne continuez pas, monsieur? Vous en étiez à peau de couille, je crois. Hein? Que se passe-t-il ensuite? Voilà comment on les calme. Bon, ben moi je vais récupérer mes cadeaux, enfin ce qu'il en reste.
C'était un extrait du film Le Père Noël est une ordure, qui est à la base une pièce de théâtre créée en 1979 par la troupe Splendide et qui est adaptée au cinéma en 1982 par Jean-Marie Poiré.
Vous écoutez Les Filles de campagne.
Cette jeune fille de campagne que je chante cette chanson, vous êtes la fleur des montagnes recherchée par nos garçons.
Dans le champ lexical cette semaine. Vous pouvez nous suivre sur Twitter à twitter.com dans le champ L ou télécharger nos émissions précédentes à danslechamplexical.com. Si la paresse vous afflige pendant le temps des fêtes, au lieu de télécharger nos émissions sur le site Internet, vous pouvez toujours simplement écouter nos émissions à CIBL car on vous a concocté quelques petits spéciaux meilleurs moments.
Viens rejoindre CIBL 5,5 FM. Si vous connaissez le nom de la personne à qui vous désirez parler, dites-le maintenant.
Gary Chartrand.
Vous avez dit « Dans le champ lexical ».
Ben non.
« Dans le champ lexical » est une émission de Joanie Larue et Mathieu Charlebois.
Non, c'est Gary.
Pour parler avec Annie Rossano, faites le Vox Pop. Pour parler à Pierre Duchesneau ou Christiane Campagna, faites la chanson thématique. Non. Pour réentendre la chanson originale, faites le Sonny Duval.
Ben, puis pour Gary Chartrand, je veux parler à Gary Chartrand.
Au revoir.